Ce sont des textes qui se croisent sur pas mal de d'éléments. Ouais, je voudrais juste passer la parole pour que vous puissiez donc, je vais vous citer des exemples différents où Freud a pris la parole publiquement. Hein, c'est intéressant. Et justement, la parole a une valeur dans les textes. Pour toi, tu me fais rappeler que cette phrase qu'on commente cette année, c'est l'occasion aussi de nous rappeler que la parole est le nerf de la chose psychanalytique. Et tu rappelles que parler, c'est parler à d'autres. Toi, si j'ai bien suivi, tu mets la parole plus du côté du non-sens. Mm-hmm. Hein? Et il y a aussi la dimension de l'autre dans ton texte que tu mets dans les mots d'esprit, en fait, hein, ou qui n'est pas sans les autres, d'où, si je suis bien, le caractère politique, où le mot d'esprit, ce serait mobiliser la frontière, la faille entre la vérité et le savoir, mais sans interrompre le lien. Mmh. Et tu mets, si je bien suivi, en rapport la pratique sans valeur avec la structure du mot d'esprit.
C'est la fin qui fait
oui. Ça. Oui, que tu reprends. Et pourquoi la parole, l'adresse de la parole est très importante, hein, tu dis que la parole est aliénante et séparatrice, c'est ce qui te permet d'avancer. C'est bon, on peut entendre en double sens cette phrase de Lacan dans la logique du fantasme, que la conscience est ce qui lie et ce qui oppose. Donc, je vais poser une question à chacun, mais qui au fond est liée, parce que ça concerne la parole publique du psychanalyste, justement. Marie-Josée, tu dis que Lacan, il s'adresse peut-être même toujours aux psychanalystes, ou peut-être à des personnes qui se trouvent intéressées par la psychanalyse. Donc, est-ce que tu penses que la parole publique du psychanalyste devrait continuer aujourd'hui sur cette voie de s'adresser aux psychanalystes? Et pour toi, Armando, tu dis que c'est une position délicate de la prise de parole aussi bien dans la cure qu'en public. Hein, et tu te demandes comment faire que ça devienne la parole un acte politique. Donc, je reprends ce que tu as dit à propos de Freud. Voilà, que le fait de parler au parlement a eu l'effet habituel d'incompréhension, parce que tu dis que le savoir qui se produit en psychanalyse démontre des conditions particulières pour pouvoir être entendu. Donc, je voudrais te demander si tu penses que la parole publique du psychanalyste concerne ce qui se produit dans la psychanalyse, ou bien aussi ce qui arrive dans le monde, ce qui arrive au monde, et si aussi la parole publique du psychanalyste chercherait à mobiliser cette faille entre vérité et savoir dont tu as parlé à l'instar du mot d'esprit. Voilà.
J'ai un doute parce que je n'ai pas fait peut-être un recensement exhaustif, mais il me semble qu'il va jusqu'à dire qu'il s'adresse seulement aux psychanalystes. Donc je me suis dit, mais voilà quelque chose qui n'est pas tout à fait ce qu'on a l'habitude d'entendre, puisque comme c'est dans les conversations, dans ce qui se passe actuellement dans les institutions, on a plutôt l'idée qu'il faudrait s'adresser au plus grand nombre. Or, ce n'est pas du tout l'idée de Lacan, et ce n'est pas la même non plus. Je crois qu'on en finira par parler ça.
Le psychanalyste, c'est peut-être le plus grand nombre.
Quoi ? Qui est optimiste, Jean-Jacques ? Alors là, oui. Mais en tout cas, je crois que c'est important de tenir ce fil-là si on ne veut pas se perdre, il faut à mon avis certains à vouloir avoir ce souci de se faire comprendre par tout le monde, de penser qu'on peut comme ça exporter les concepts du psychanalyse ou n'importe quel autre concept. C'est comme si on demandait aux mathématiciens d'être compris par tout le monde. Ce qui n'empêche personne de s'intéresser à ce dont on a dire. Je pense que c'est important. Alors c'est en même temps c'est très exigeant, du coup ça met la barre encore plus haut que ce qu'on pouvait peut-être imaginer jusque-là, de ce qui nous revient. Donc je suis tout à fait d'accord pour essayer de soutenir ça.
Oui, je pense que en écoutant en disant que en préparant ça, je suis un peu il y a cette question justement des je suis d'accord avec toi, je pense qu'il s'adressait comment Freud, pour ça j'aurais pris Freud 1900 parce qu'il s'adressait aux psychanalystes, c'est-à-dire qu'il n'avait pas intérêt à répondre à un militaire ou ce soir, mais il s'adressait à celui qui allait prendre en charge les symptômes. Que je pense que c'est quelque chose que Lacan a toujours fait, mais il a fait d'une certaine façon bien particulière à lui. Et c'est là où je pense qu'il insistait sur cette affaire de ces maniements de monde, d'esprit, mais pas pour faire rire, mais justement pour montrer, séparer les choses, et en même temps que ça puisse s'effermer à nouveau. Que c'est finalement les dispositifs de la passe, hein. Finalement c'est un peu ça, c'est montrer quelque chose qu'on ne pouvait pas voir autrement, on ne pouvait pas entendre d'une façon, d'où l'importance du témoignage, et que ce n'est pas la personne directe, et à tout un... Tous ces systèmes, c'est aussi un système des dispositifs où il y a la question du regard, c'est-à-dire qu'on va voir les choses un peu autrement, de travers, et d'un instant, et après ça c'est ferme. Puis il y a aussi la question de la pudeur qui est dans cette question de comment s'adresser à un public parce qu'on ouvre les choses qu'il faut que ça puisse se fermer. Il me semble que parfois les maladresses des interventions de certains psychanalystes en public, c'est qu'ils veulent ouvrir des choses sans penser à la question de la fermeture aussi. Et à qui on s'adresse, à ça, je suis tout à fait d'accord avec.
Quand même un petit point sur effectivement la plaisanterie. Il s'adresse là, quand il dit il parle non, quand il dit dans télévision, il parle non idiot, ce que tu as rappelé, on voit bien que c'est pas seulement c'est à la télévision, c'est pas aux psychanalystes. Hein.
C'est à la télévision, mais il s'adresse aux psychanalystes.
Oui.
Si on le suit.
C'est une. C'est. Comment dire c'est un mot d'esprit. Je veux dire, il le traite lui-même comme un mot d'esprit, Lacan, là. Quand il dit, il parle de l'idiot, et il dit, je m'adresse aux psychanalystes. À supposer que les psychanalystes soient non-idiots, ce qui n'est pas absolument prouvé, voilà.
Non, juste j'ajouterais idiot au sens du même. Hein.
Au sens du même.
Idios.
Voilà, il y a une définition de l'idiot en télévision. Toujours retourner au texte. Hein. Je parle, comprends pas que je parle à la cantonade, je parle à ceux qui s'y connaissent, aux non-idiots, à des analystes supposés. Il appelle donc les non-idiots, les analystes supposés. Donc les idiots, c'est ceux qui ne sont pas analystes, qui ne s'y connaissent pas dans le discours analytique. Là, il n'y a pas de... C'est pas... Il n'y a pas photo, comme on dit, la phrase est très... n'est pas équivoque, pour le coup. Hein. Puisque j'ai le micro, je dirais quelque chose sur parler pour les analystes. Je trouve qu'il y a une grande différence entre Freud et Lacan sur ce point. Puisque Lacan, Lacan a été dans l'histoire de la psychanalyse en position d'entreprendre, comme il a dit, une réforme de l'entendement des psychanalystes. C'est-à-dire de redresser quelque chose dans l'histoire de la psychanalyse, dans la formation, dans la transmission de la doctrine, etc. Ce qui n'était pas le cas de Freud. Freud, il était en train d'inventer, de construire, etc. Donc, bien sûr, il pouvait parler aussi pour les analystes, quand il parlait dans les soirées du mercredi, dans les congrès, etc. Mais c'était beaucoup moins général que Lacan. C'est-à-dire que Lacan, où qu'il soit, il a cette visée. C'est qu'il faut... comment dire, rectifier quelque chose de la formation des analystes. Et je veux dire que lui-même, il ne recule pas à chercher à se faire comprendre parfois. Si vous regardez, on peut toujours essayer, vu que c'est impossible. c'est pas grave. Mais si vous regardez, ça m'a fait frapper quand je lui ai été arrêté. Les conférences aux États-Unis, il y a des passages où il ne cherche pas à se faire comprendre, mais il y a des pages entières où il essaye de s'expliquer dans les termes les plus simples qui soient. Hein, très simple. Donc, seulement, évidemment, attention, Lacan était Lacan. Donc, il s'était donné l'objectif dans la psychanalyse de produire par sa parole, par son enseignement, quelque chose qui ait un impact sur les analystes. Actuellement, aucun analyste actuel n'est dans cette position-là. De même que Freud n'était déjà pas dans la même. Et donc, ça complexifie un petit peu la question de notre sujet. Alors moi je reste toujours avec des points d'interrogation sur la pratique sans valeur. On avait déjà eu une soirée ici où je crois que Bernard Thoreau l'avait fait un exposé là-dessus, sur la pratique sans valeur.
Ah d'accord.
Oui, c'était il y a quoi, 2 ans, je ne sais plus. Je ne suis pas sûre de ce que ça veut dire, une pratique sans valeur chez Lacan. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire désigner quelque chose des visées de l'analyste. Et dans le contexte que vous avez rappelé, on ne vise pas le bon. On ne vise pas le bien non plus, puis on ne vise pas le vrai avec un grand V. Bon, ça peut vouloir dire quelque chose comme ça. Mais on vise quelque chose quand même. Et on ne vise pas que le non-sens. Parce que, ou alors il faudrait expliquer comment s'arrangent les deux propositions. L'analyse est une pratique sans valeur, et le discours est lié aux intérêts du sujet. Parce que les intérêts du sujet, c'est de la valeur. Et c'est même ce que vous avez déplié. C'est le plus de jouir, le gain de plaisir. C'est de la valeur, ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai une difficulté vraiment avec cette idée de pratique sans valeur. Il y a plusieurs façons, sans doute.
Tout à fait, oui. Non, c'est très... J'ai appris en faisant les textes, hein, parce que c'était justement la question que j'avais, mais c'est pour ça qu'il me semble qu'on centre, il y avait la question pour Lacan de la place de l'objet, qui n'a pas une valeur pour les sujets, mais à un moment donné, ça qui se prête de sa valeur. Quand on commence une analyse, il y a quelque chose, il y a un objet qui n'a pas une valeur à ce moment-là, quand on commence, mais qui prend du moment qui passe, il part des.
Quand on commence, on veut guérir, hein. On veut améliorer ses symptômes, on veut de l'effet thérapeutique.
Oui.
Qu'est-ce que ça devient dans la pratique sans valeur, ça ?
Non, c'est pour ça que c'est surtout Lacan qui essaie de suivre la question. Il essaie de proposer la question de Marx par rapport à. Parce qu'il dit, quand il parle de Marx, il parle des symptômes, mais un symptôme qui est social. Mais, donc, alors, la citation, c'est dit, si nous ne faisons pas des langues qui, quoi que ce soit, qui véhiculent un symptôme idéal, si nous les déterminons dans chaque cas de son inconscient et de la façon dont il a joui, les symptômes restent à la même place où l'a mis Marx. Et il prend une autre scène, non pas les symptômes sociaux, mais les symptômes particuliers. Donc il me semble que c'est là où il y a la question de la valeur. C'est-à-dire qu'effectivement, on rentre avec un symptôme qui est social, qui a une valeur sociale, et qui est l'effet de la psychanalyse, et que la position de l'analyste, il me semble, justement que ces symptômes deviennent un symptôme qui n'a plus la valeur sociale. Mais une valeur, et lui dit un symptôme particulier. Donc, il y a ces passages entre. Il me semble que là, il y a quelque chose, en tout cas pour moi, ça m'a éclairé, ça, en tout cas, de ces mouvements qui. Parce qu'à chaque fois, je m'interroge pourquoi utiliser Marx, à chaque fois les prolétaires, etc. Mais c'est vraiment pour introduire qu'il y a une différence entre ces symptômes dans lesquels on peut y vivre, mais à un moment donné. Il y a quelque chose qui s'élargit du social pour devenir quelque chose d'individuel. Je ne sais pas. Mais c'était comme question tout ça.
Rado.
Merci. Je voulais juste dire deux mots et poser une question à Armando. J'ai beaucoup apprécié ton immersion dans l'affaire du comique et de la comédie. Ça m'a toujours beaucoup intéressé. J'ai toujours lu les propos de Lacan d'une manière, enfin, qui au début j'étais assez perplexe de ce qu'il disait sur l'affaire de la tragédie et de la comédie. Et quand je t'ai écouté, je pensais que c'est pas nouveau, cette affaire de la tragédie comme quelque chose d'assez énigmatique, parce qu'on sait bien que Aristote, dans sa poétique, il a écrit des chapitres sur la tragédie et la comédie, mais soi-disant, on a perdu la partie sur la comédie. Après, il y a Shakespeare qui écrit sur la comédie des erreurs. Il y a Lacan qui reprend l'affaire du « ce n'est pas lui, ce n'est pas elle non plus ».
Nietzsche entre-temps, Radio Nietzsche.
Pardon ?
Nietzsche entre-temps, Radio
Nietzsche. Et Nietzsche entre-temps, oui. Et puis, sur la comédie du phallus, hein, c'est Lacan aussi qui le dit. Donc, je me posais la question, je ne sais pas si tu serais d'accord, sur cette affaire d'une pratique sans valeur. Enfin, c'est aussi lié à la valeur du phallus, c'est-à-dire d'une pratique, enfin, qui pour le névrosé, le phallus a une valeur tragique et dramatique. Il y a une autre façon d'approcher cette affaire du phallus, c'est-à-dire une façon comique, mais qui veut dire une pratique qui traite plus légèrement l'affaire du phallus, pas à la légère, mais légèrement. C'est-à-dire avec une certaine souplesse, avec une certaine liberté. Et voilà, je voulais savoir s'il y a quelque chose comme ça dans ce que vous voulez dire.
Oui, tout à fait. Je pense que quand il répond à la question des valeurs d'usage, des valeurs d'échange, c'est ça ?
Oui.
Chez Marx, c'est ça qu'on voit chez Pétillance, quand il y avait l'objet qui peut circuler, il y a des objets qu'on peut faire circuler au sort qui passent du côté de l'autre. Donc, du coup, c'est une valeur d'échange. Donc, on peut, du coup, faire un lien social avec ces objets. Et après, c'est comme cet objet prend une valeur, une autre valeur, que c'est la valeur phallique, c'est signifiant bien particulier, parce que c'est un signifiant, justement, qui prend encore une autre valeur, que ce n'est pas une valeur d'échange. Et c'est une valeur particulière pour les sujets, mais simple. C'est là où ça devient très complexe, mais je suis d'accord avec toi, parce que c'est une partie du corps qui, en quelque sorte, permet en même temps d'établir les liens sociaux à partir de ça. Si j'ai parlé beaucoup, j'ai commencé par la question de la clinique, parce que les premières choses que j'ai trouvées quand j'ai commencé à travailler avec ces personnes, quand on est la torture et tout ça, c'est que je m'attendais à une clinique extrêmement tragique, mais j'ai jamais autant ri avec ces personnes qui ont connu des violences politiques, parce qu'ils utilisent ça d'une façon très lacanienne, je dirais. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire rire à l'autre. Et c'était la seule façon de pouvoir traiter les réels, en fait. Parce qu'il me semble que c'est là où Lacan, lui-même, quand il a été traité, parce que c'est le semaine de l'angoisse, d'une façon épouvantable, il a pu, en quelque sorte, se moquer des associations psychanalytiques de l'époque, en mettant ça de côté du comique. C'est-à-dire que, voilà, en disant que ce n'est pas tragique, mais c'est plutôt comique. Il me semble que ces passages d'un à l'autre permet de rendre les objets plus légers, même soi-même plus léger par rapport au drame qu'on est en train de vivre, en quelque sorte. Mais il y a derrière ce que j'ai toujours constaté, c'est la question de la honte qu'on éprouve face à rire de quelque chose de terrible. Mais une fois qu'on a pu rire, parce qu'il y a la question du rire qui prend le corps aussi, parce que c'est cette affaire des corps où on partage quelque chose, il me semble que c'est là où l'inconscient est toujours présent, parce que ça fait écho, malgré la culture, les temps, etc. On peut toujours rire de quelque chose qui fait écho à nous, et donc dont on partage. Donc, il me semble que c'est un lien avec la question du syndicat, en fait. Tu pourrais expliquer.
Comme dirait Pax, ce rire, c'est un avatar du surmoi dans le registre comique, comme dit Lacan.
Oui, c'est ça, on a dépassé les regards surmoïques. Oui, tout à fait.
C'est un avatar du surmoi. C'est une occurrence du surmoi dans le registre du comique.
Ah, d'accord.
Quand on rit, il nous arrive un gros malheur, on en rit. Mm-hmm.
Oui, tout à fait.
C'est une réaction, on peut dire, de défense contre le tragique,
oui.
Contre l'engouffrement dans les émois tragiques. Et au fond, c'est comme ça que Lacan a défini avatar du surmoi dans le registre du comique.
Les rires. Tout à fait, oui, bien sûr.
Le jeu de mots de Lacan dans l'édition, ce que tu évoquais, Jean-Jacques, quand il dit qu'on ne croit pas pour autant que j'y parle à la cantonade.
La cantonade.
Ah oui, quand même. Quand il dit ça, la cantonade, c'est un vide. C'est la cantonade qui le dit, quoi. Donc quand il dit qu'il ne parle pas à la cantonade, c'est aussi à son... Ça veut dire qu'il ne parle pas non plus pour, son précaré, je ne sais pas comment appeler ça. C'est aussi une façon de dire ça, qu'il dit qu'il parle à ceux que, avec quelques raisons, on suppose analystes, enfin, ce que vous avez lu tout à l'heure, mais comment dire, ah, il dit une chose et autre chose en même temps, hein, c'est-à-dire qu'effectivement il parle, il s'adresse aux analystes, parce que à mon avis c'est là que, qu'est l'exigence en quelque sorte pour que son discours vaille. Alors on va revenir à la question de la valeur, mais ça ne veut pas dire que leur parlerait de façon exclusive, en fait, pour pas que les autres entendent. Au contraire, c'est bien parce qu'il leur parle à eux qu'il escompte un effet qui dépasse bien, évidemment, les analystes. Enfin, et alors, c'est ça qui est extraordinaire avec Lacan. À chaque fois, c'est pas tant. C'est que moins de phrases, c'est un écrit.
Qu'est-ce que c'est au juste que parler à Lacan dans la...
Alors, c'est une expression qu'avait reprise Martine. Hein, quand tu parlais du transfert avec les enfants, ça vient d'Éric Pau.
Parce que Lacan parle des enfants.
C'est ça, quand il parle du transfert.
Pour critiquer Piaget.
Ouais.
Pour critiquer Piaget, qui a cru que les enfants. Les petits enfants ne savaient pas parler aux autres, etc. Et il a dit, Lacan a rectifié Piaget en disant c'est pas ça du tout, il parle à la cantonade. Bien compris, ça suppose la dimension du grand autre.
Oui.
Ça suppose peut-être pas la dimension de. Parler aux petits copains, mais que c'est ça. Il parle au grand autre. Implicitement, j'ai cru comprendre ça pour. Je ne sais pas, Martine, tu as peut-être une autre lecture.
Oui, c'est comme ça que tu as la lecture. Enfin, moi, c'est quelque chose que. Ça fait longtemps que ça date que tu avais parlé de. Mais moi, ça m'avait beaucoup parlé par rapport aux enfants, par rapport à la question du transfert. Effectivement, il ne nous adresse pas forcément quelque chose à nous. Mais ils adressent quelque chose à la cantonade, et si on l'attrape, là il se passe quelque chose.
C'est comme dans le
phénomène. Le phénomène est un petit peu le même, justement, puisqu'on évoquait Wedekind, donc effectivement on peut conseiller d'y aller puisque il n'y a plus de place. Donc moi je veux dire. Il y a deux jours, j'ai eu de la place pour hier, donc je ne suis pas si sûr qu'il n'y a pas de place. Alors, donc, ce que je veux dire, c'est que dans le Wedekind, l'histoire de à la cantonade, c'est rejoint l'histoire de l'amour. Et c'est d'ailleurs le commentaire que fait Freud sur l'amour auto-érotique et l'amour d'objet. Hein, où il considère qu'il y a un amour qui est à la cantonade, c'est-à-dire qui est en quelque sorte, c'est son idée en tout cas sur l'amour de Wendla et de Melchior, n'est-ce pas ? C'est-à-dire Melchior rencontre une fille, c'est celle-là qui lui tombe sous la main. Hein, c'est un amour, il dit justement, il est à la, en quelque sorte, ça serait un amour à la cantonade. C'est pour ça que ça m'avait fait penser à ça. Et à l'opposé, celui qui se masturbe devant les tableaux, il dit, ça c'est, il y a un objet, donc c'est un amour d'objet. Ça c'est la thèse de Freud. Après, on peut discuter.
Et Marie-Josée, toi, tu faisais référence au jeu de mots Lacan,
Donald, c'est ça? Oui. Oui. Ben, moi, j'avais... Oui. Oui. Donc, merci pour vos textes, Armand, pour nous rappeler l'importance de la pudeur, côté du discours analytique, et Marie-Josée, l'importance de la parole. En moi, qui étais plongée là, dans une séance de récits, ça m'a renvoyé à cette séance du 4 avril 1975 où il évoque Lacan. Il dit que c'est bien dommage que son discours n'ait pas de portée, n'ait pas autant de portée que le discours de certains dingues qui ont mission de vérité.
mais qu'en même temps, c'est bien que ce soit comme ça, parce que justement, ça implique toute la question de l'interdit, de l'entredit, du refoulé primordial. Et dans ce que vous dites, et notamment Marie-Josée Latour par rapport à la parole, j'entendais cette question-là, de la vérité médite. Donc si vous voulez en dire quelque chose, ça m'intéresse.
Non, c'est sinon que, effectivement, comme quoi nous partager aussi, nous partageons avec Lacan le fait de temps en temps de mal supporter que le discours analytique n'est pas suffisamment, pas la portée que nous souhaiterions qu'il ait, mais en même temps, c'est dépenser beaucoup d'énergie pour rien que de. C'est pas d'ailleurs ce qu'a fait Lacan. Bien que constatant ça, ça ne l'a pas empêché de continuer à soutenir quelque chose qui est difficilement entendable. Alors, la question, c'est effectivement comment, mais c'est ce qu'on fait, je crois, qu'on essaye de faire, comment continuer à faire entendre, à faire résonner quelque chose qui ne peut pas forcément passer par de l'explication de texte, si ce n'est que chaque analysant peut s'expliquer avec son propre texte à lui.
Mais il me semble, je ne sais pas, que, bon, ça tracasse Lacan très fortement, ça on voit surtout quand il a créé la dispositif, toute la question des discours. Quand il change la question de l'agent, semblant, toutes ces places de l'analyste, ça, il revient en semblant, après, il y a quelque chose où, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une conclusion, il semble qu'à la fin, il se rend compte qu'il montre que la question, quand il dit sans parole, il semble qu'il y a une force pour dire que c'est sans parole, c'est quelque chose qui va passer au-delà justement de la parole. C'est-à-dire que si on garde cette position d'une parole autre que cette parole publique, etc., c'est ça qui va permettre en même temps que les discours puissent tourner. Parce que autrement, si on essaye de prendre la parole et produire un signifiant, on est dans un autre. C'est le discours du maître, on produit une vérité, donc. On voit très bien que dans les dispositifs des quatre discours, si on essaye de produire une parole de vérité publique, on n'est plus dans les discours analytiques. Donc, et c'est là où est extrêmement logique Lacan, c'est-à-dire qu'il faut garder cette place de quelque chose où c'est pas, on ne peut pas prendre la parole en public parce qu'on n'est plus analyste. C'est pour ça qu'il insiste à la télévision. Quand il revient, il dit « Regardez-moi, je suis un clown. » C'est pour ça qu'il est sous la position des pitres, parce que ce n'est pas cette parole qui va faire, en quelque sorte, l'effet des actes.
Ça veut dire. Un discours sans parole, c'est du côté du dire, non?
Oui, de tenter de dire qui passe acte.
Ce n'est pas un discours pour moi.
Oui, des discours courants, oui, c'est ça. Donc, non, il est étourdi pour moi, c'est vraiment, je pense que là, il a tout. Il a montré vraiment la logique de ce qui est. Voilà, c'est qui est. Comment dissoudre vraiment les discours courants. C'est-à-dire qu'à chaque fois que mon réplique l'étourdi, c'est. C'est ça, parce que c'est ça le discours analytique. Il y a quelque chose où c'est pas possible. Parce qu'on peut pas rendre compte, en fait.
Mais ça te fait rire. À toi, ouais. C'est ça qui est bien.
Ouais, parce que c'est.
Mais
on est rejeté.
Mais ça, je pense que c'est important qu'on arrive à transmettre ça aussi dans les collèges cliniques ou ailleurs. Souvent, il y a un tel effet d'inhibition.
pour nous qui disons Lacan depuis 40 ans, bon,
et que je crois aussi que vraiment n'a rien compris.
J'aimerais bien qu'on revienne.
Armando, vous avez bien fait de revenir au mot d'esprit, parce que c'est vrai que c'est un texte fondamental. J'aimerais qu'on revienne à la question du rapport entre le mot d'esprit et la pulsion de mort. On ne parle pas assez peut-être en ce moment, alors qu'elle est partout.
Ça prend
une autre
fois. Si on veut finir en riant, ce sera pour une autre fois.
Dernier point sur cette histoire de parole. Je vous rappelle que Lacan s'adressait, c'est ce qu'il disait, au séminaire en analysant. Donc effectivement, de ce point de vue, son public, à partir du moment où il parle, son public, ceux à qui il s'adresse, c'est les analystes. C'est la logique de cette affaire.
J'analyse la parole de la
le début de télévision, quand même, implique une thèse qui est que le discours analytique peut être le discours public. Cécilia Scofflet qui avait souligné ça très justement une fois, puisque quand il dit « je parle au nom du regard », le regard cause de Lacan analysant en tant qu'il parle, lui Lacan et qu'il enseigne, c'est la structure du discours analytique. Et donc c'est la structure du discours analytique hors des murs, hors des murs du cabinet d'une certaine façon. Donc la parole, notre parole publique, on pourrait dire ça peut-être. C'est ce que vous appliquiez un peu, vous ne voulez pas avec cette formule, mais il faut parler en analysant. Parlons en analysant.
Et voilà, oui, mais c'est précisément ça que j'ai dit dans les premières pages. Je n'attends rien de plus des analystes supposés que d'être cet objet grâce à quoi ce que j'enseigne n'est pas une auto-analyse. Sans doute sur ce point, n'y a-t-il que deux de ceux qui m'écoutent que je serais entendu. Mais même ne rien entendre, un analyste tient ce rôle que je viens de formuler, et la télévision ne tient dès lors aussi bien que lui.
C'est-à-dire que sans analyste, c'est pour ça que est analyste tout le monde ici. Tous ceux qui l'écoutent.
Oui, tout à fait.
Et un de ses derniers textes, c'est le malentendu.
On pourrait continuer nos échanges.